Chapitre 1er. Le marché. Je ne me souviens pas de mon enfance. Je fus probablement malheureux, comme tous les ânons. Joli, gracieux, comme nous le sommes tous. Très certainement, je fus plein d'esprit, puisque, tout vieux que je suis, j'en ai encore plus que mes camarades. J'ai attrapé plus d'une fois mes pauvres maîtres, qui n'étaient que des hommes, et qui, par conséquent, ne pouvaient pas avoir l'intelligence d'un âne. Je vais commencer par vous raconter un des tours que je leur ai joué dans le temps de mon enfance. Les hommes, n'étant pas tenus de savoir tout ce que savent les ânes, vous ignorez sans doute, vous qui lisez ce livre, ce qui est connu de tous les ânes, mes amis. C'est que tous les mardis, il y a dans la ville de l'Aigle un marché où l'on vend des légumes, du beurre, des œufs, du fromage, des fruits et autres choses excellentes. Ce mardi est un jour de supplice pour mes pauvres confrères. Il était aussi pour moi, aussi, avant que je fusse acheté par ma bonne vieille maîtresse, votre grand-mère, chez laquelle je vis maintenant. J'appartenais à une fermière exigeante et méchante. Figurez-vous, mon cher petit maître, qu'elle poussait la malice jusqu'à ramasser tous les œufs que pondaient ses poules, tout le beurre et le fromage que lui donnait le lait de ses vaches, tous les légumes et fruits qui mûrissaient dans la semaine pour remplir des paniers qu'elle mettait sur mon dos. Et quand j'étais si chargé que je pouvais à peine avancer, cette méchante femme s'asseyait encore au-dessus des paniers et m'obligeait à trotter ainsi, écrasé, accablé, jusqu'au marché de l'Aigle, qui était à une lieue de la ferme. J'étais, toutes les fois, dans une colère que je n'osais montrer, parce que j'avais peur des coups de bâton. Ma maîtresse en avait un très gros, plein de nœuds, qui me faisait bien mal quand elle me battait. Chaque fois que je voyais, que j'entendais les préparatifs du marché, je soupirais. Je gémissais, je braillais même dans l'espoir d'attendrir mes maîtres. « Allons, mon grand paresseux, » me disait-on en venant me chercher. « Vas-tu te taire et ne pas nous assourdir avec ta vilaine grosse voix ? Hiant, hiant, voilà-t-il une belle musique que tu nous fais ? Jules, mon garçon, approche ce feignant près de la porte, que ta mère lui mette sa charge sur le dos. Là, un panier d'œufs, encore un, les fromages, le beurre, les légumes maintenant. » C'est bon. Voilà une bonne charge qui va nous donner quelques pièces de 5 francs. Mariette, ma fille, apporte une chaise, que ta mère monte là-dessus. Très bien. Allons, bon voyage, ma femme, et fais marcher ce fignon de bourri. Tiens, voilà ton gourdin. Tape dessus. Pan, pan. C'est bien, encore quelques caresses de ce genre et il marchera. Vlan, vlan. Le bâton ne cessait de me frotter les reins, les jambes, le cou. Je trottais, je galopais presque. La fermière me battait toujours. Je fus indigné de tant d'injustice et de cruauté. J'essayai de ruer pour jeter ma maîtresse par terre. Mais j'étais trop chargé. Je ne pus que sautiller et me secouer de droite à gauche. J'eus pourtant le plaisir de la sentir dégringoler. « Méchante âne, sot animal, entêté, je vais te corriger et te donner du martin-bâton. » En effet, elle me battit tellement que j'eus peine à marcher jusqu'à la ville. Nous arrivâmes enfin. On ôta de dessus mon pauvre dos écorché tous les paniers pour les poser à terre. Ma maîtresse, après m'avoir attaché à un poteau, alla déjeuner. Et moi, qui mourais de faim et de soif, on ne m'offrit pas seulement un brin d'herbe, une goutte d'eau. Je trouvai moyen de m'approcher des légumes pendant l'absence de la fermière. Et je me rafraîchis la langue en me remplissant l'estomac avec un panier de salade et de choux. De ma vie, je n'en avais mangé de si bon. Je finissais le dernier chou et la dernière salade lorsque ma maîtresse revint. Elle poussa un cri en voyant son panier vide. Je la regardais d'un air insolent et si satisfait qu'elle devina le crime que j'avais commis. Je ne vous répéterai pas les injures dont elle m'accabla. Elle avait très mauvais ton et lorsqu'elle était en colère, elle jurait et disait des choses qui me faisaient rougir, tout âne que je suis. Après donc m'avoir tenu les propos les plus humiliants, auxquels je ne répondais qu'en me léchant les lèvres et en lui tournant le dos, elle prit son bâton et se mit à me battre si cruellement que je finis par perdre patience et que je lui lançai 3 ruades, dont la première lui cassa le nez et 2 dents, la seconde lui brisa le poignet et la troisième l'attrapa à l'estomac et la jeta par terre. 20 personnes se précipitèrent sur moi en m'accablant de coups et d'injures. On emporta ma maîtresse, je ne sais où, et l'on me laissa attaché au poteau près duquel étaient étalées les marchandises que j'avais apportées. J'y restai longtemps. Voyant que personne ne songeait à moi, Je mangeais un second panier plein d'excellents légumes. Je coupais avec mes dents la corde qui me retenait et je repris tout doucement le chemin de ma ferme. Les gens que je dépassais sur la route s'étonnaient de me voir tout seul. « Tiens, ce bourri avec sa longe cassée, il s'est échappé !» disait l'un. « Alors, c'est un échappé des galères !» dit l'autre, et tous se mirent à rire. « Il ne porte pas une forte charge sur son dos !» reprit le troisième. « Bien sûr, il a fait un mauvais coup !» s'écria un quatrième. « Attrape-le donc, mon homme, nous mettrons le petit sur son bas !» dit une femme. « Ah, il te portera bien avec le petit gars !» répondit le mari. « Moi, voulant donner une bonne opinion de ma douceur et de ma complaisance, je m'approchai tout doucement de la paysanne et je m'arrêtai près d'elle pour la laisser monter sur mon dos. « Il n'a pas l'air méchant, ce bourri !» dit l'homme en aidant sa femme à se placer sur le bas. Je souris de pitié en entendant ces propos. « Méchant ! Comme si un âne doucement traité était jamais méchant ! Nous ne devenons colère, désobéissants et entêtés que pour nous venger des coups et des injures que nous recevons. » Quand on nous traite bien, nous sommes bons, bien meilleurs que les autres animaux. Je ramenai à leur maison la jeune femme et son petit garçon, joli petit enfant de 2 ans, qui me caressait, qui me trouvait charmant et qui aurait bien voulu me garder. Mais je réfléchis que ce ne serait pas honnête. Mes maîtres m'avaient acheté, je leur appartenais. J'avais déjà brisé le nez, les dents, le poignet et l'estomac de ma maîtresse. J'étais assez vengé. Voyant donc que la maman allait céder à son petit garçon, qu'elle gâtait, je m'en étais bien aperçu pendant que je le portais sur mon dos. Je fis un saut de côté, et avant que la maman eût pu ressaisir ma bride, je me sauvai en galopant, et je revins à la maison. Mariette, la fille de mon maître, me vit la première. « Ah, voilà Cadichon ! Comme le voilà revenu de bonne heure ! Jules, viens lui ôter son bas !»« Méchante âne ! » dit Jules d'un ton bourru. Il faut toujours s'occuper de lui. Pourquoi donc est-il revenu seul? Je parie qu'il s'est échappé, vilaine bête, ajouta-t-il en me donnant un coup de pied dans les jambes. Si je savais que tu t'étais sauvé, je te donnerais 100 coups de bâton. Mon bas et ma bride étant ôtés, je m'éloignai en galopant. À peine étais-je entré dans l'herbage que j'entendis des cris qui venaient de la ferme. J'approchai ma tête de la haie et je vis qu'on avait ramené la fermière. C'étaient les enfants qui poussaient ces cris. J'écoutais de toutes mes oreilles, et j'entendis Jules dire à son père. « Mon père, je vais prendre le grand fouet du charretier. J'attacherai l'âne à un arbre et je le battrai jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Va, mon garçon, va, mais ne le tue pas. Nous perdrions l'argent qu'il nous a coûté. Je le vendrai à la prochaine foire. » Je restai, tremblant de frayeur, en les entendant et en voyant Jules courir à l'écurie pour chercher le fouet. Il n'y avait pas à hésiter. Et, sans me faire scrupule cette fois, de faire perdre à mes maîtres le prix qu'ils m'avaient payé, je courus vers la haie qui me séparait des champs. Je m'élançai dessus avec une telle force que je brisai les branches et que je pus passer au travers. Je courus dans le champ et je continuai à courir longtemps, bien longtemps, croyant toujours être poursuivi. Enfin, n'en pouvant plus, je m'arrêtai. J'écoutai. Je n'entendis rien. Je montai sur une butte. Je ne vis personne. Alors, je commençai à respirer et à me réjouir de m'être délivré de ces méchants fermiers. Mais je me demandais ce que j'allais devenir. Si je restais dans le pays, on me reconnaîtrait, on me rattraperait et l'on me ramènerait à mes maîtres. Que faire? Où aller? Je regardais autour de moi. Je me trouvais isolé et malheureux et j'allais verser des larmes sur ma triste position lorsque je m'aperçus que j'étais au bord d'un bois magnifique. C'était la forêt de Saint-Évroult. Quel bonheur, m'écriai-je. Je trouverai dans cette forêt de l'herbe tendre, de l'eau, de la mousse fraîche. J'y demeurerai pendant quelques jours, puis j'irai dans une autre forêt, plus loin, bien plus loin de la ferme de mes maîtres. J'entrai dans le bois. Je mangeai avec bonheur de l'herbe tendre, et je bus l'eau d'une belle fontaine. Comme il commençait à faire nuit, je me couchai sur la mousse, au pied d'un vieux sapin, et je m'endormis paisiblement. Jusqu'au lendemain.